Interview.
1 du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Tony Valentin. Bonjour.
Bonjour Yves.
Tony Valentin, vous êtes coordinateur général du lieu Les Amanins et gérant de la SCOP de ce lieu également. Et vous êtes ici pour nous parler d'un revirement et peut-être d'une transformation des Amanins et notamment aussi un appel à un financement participatif pour relancer une nouvelle manière d'agir.
C'est bien ça, oui. Je représente les Amanins, en effet, et c'est un lieu qui existe depuis 20 ans, qui accueille dans une ferme agroécologique à la fois des séjournants, des professionnels en séminaire et des classes d'école. Et ce lieu transmet beaucoup de valeurs dans la pédagogie, dans les valeurs agroécologiques. Et aujourd'hui, on a besoin de prendre un virage un petit peu important, déjà pour se remettre, on va dire, à la pointe de toutes les techniques de régénération qui existent aujourd'hui. Et aussi transformer un petit peu l'activité globalement, puisqu'on a souffert de pas mal de manque d'accueil justement ces dernières années, suite au Covid. Voilà, donc je viens relayer effectivement cette grande campagne d'appel à dons, de financement participatif, pour nous aider à opérer cette transformation.
Pour cela, on va commencer par un rappel de ce que sont les Amanins. Mmh. Donc vous disiez créé il y a une vingtaine d'années, sur l'instigation de qui et sur quel motif à ce moment-là?
Alors oui, ça a 20 ans les Amanins cette année. Ça a été créé par mon père Michel Valentin, qui a été accompagné qui était un entrepreneur et qui avait envie de créer une ferme un petit peu autonome en alimentation et qui utilise beaucoup de valeurs écologiques dans la construction des bâtiments et dans l'exploitation des lieux. Il a été associé avec sa compagne Isabelle Pelou, qui est directrice d'école. Donc les Amanins ont créé une école primaire sur place, qui est maintenant sous contrat avec l'État, qui est une école laïque. Et il a été également accompagné de Pierre Rabhi, qui est un philosophe paysan, pour toute la partie, on va dire, spirituelle du lieu et sa vocation.
Le point de départ, c'était des terres, une ferme et un savoir-faire. Et il a fallu conjuguer aussi avec des nouvelles notions de respect de la biodiversité. Enfin, il y avait de nouveaux outils peut-être à étudier ou à expérimenter.
C'est ça. Donc l'idée, c'était de pratiquer l'agriculture de façon la plus saine et la plus responsable possible, en y associant à la fois de l'élevage, des grandes cultures, du maraîchage, et que toutes ces activités-là soient liées entre elles et soient utiles entre elles. Voilà, donc ça a été créé pour cela et pour permettre à tous les professionnels sur place d'en vivre, que ce soit les paysans ou les personnes qui s'occupent de l'accueil de nos séjournants. L'idée, c'était de faire une société autonome où l'accueil, justement, permettait de faire vivre dignement les paysans, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui, donc de leur procurer un salaire et une vie plutôt correcte, globalement, vis-à-vis de ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'agriculture.
Voilà, ça revêt un aspect de SCOP, en quelque sorte, et dont vous êtes le gérant.
Moi, je suis gérant de la SCOP depuis 2 ans. J'ai fait aussi ma carrière d'entrepreneur de mon côté pendant longtemps, et par éthique et puis par moralité vis-à-vis de ce lieu que j'aime beaucoup, je suis revenu l'aider à passer cette mauvaise étape qui dure depuis maintenant 2-3 ans.
Alors, dès sa création de cette ferme des Amanins, quel a été le fer de lance de cette démarche? Qu'est-ce qui a été mis en avant avant tout?
Alors, ce qui a été mis en avant avant tout, c'est de montrer que l'on peut manger sainement, être quasiment autonome, être sobre dans la consommation d'énergie, dans la consommation en général, et de transférer toutes ces vertus-là, ou de les transmettre en tout cas, alors à un petit peu tout le monde, et notamment aux enfants, puisque c'est eux qui assureront notre avenir demain. Donc l'idée, c'était d'associer une école dès le début, pour que cette transmission se fasse dès le plus jeune âge. Et puis, ça a été aussi accessoirement l'idée de passer des messages, de passer de la compétence à tous les collaborateurs qui nous ont accompagnés depuis 20 ans.
Vous-même étiez écolier dans cette école?
Alors non, moi je n'étais pas parce que je n'avais pas de passe-droit particulier. J'étais déjà à la fin de ma scolarité à ce moment-là. J'étais même déjà papa à ce moment-là. J'ai des grands-enfants qui n'y ont pas été non plus, simplement parce qu'on était un petit peu éloignés géographiquement. Et l'école accueille, c'est une école inclusive qui accueille tout type d'enfants et qui assiste pour avoir des enfants un petit peu en difficulté également. Qui prend de façon aléatoire les enfants qui le demandent, en incluant principalement les enfants des salariés et les enfants du village, bien évidemment.
Il y a donc des enfants depuis une vingtaine d'années, on peut dire. Mmh. Est-ce que vous avez eu une continuité de relations avec ces enfants et sur quoi ont abouti certains ? Est-ce que c'est dans le domaine agricole également ?
Alors oui, bien sûr, il y a un petit peu moins d'un an, on a fêté les 20 ans du lieu. Et on a invité justement nos anciens salariés, nos anciens collaborateurs, les anciens élèves de l'école. C'est à peu près 200 enfants qui sont passés dans cette école en 20 ans, sur les niveaux du CPO CM2. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs d'entre eux qui justement m'ont fait le retour et nous ont fait le retour en général que les Amanins leur ont apporté beaucoup dans leur vie sociale et dans leur comportement humain, mais aussi leur ont apporté beaucoup de techniques et leur ont permis de faire un métier de cette agriculture, de ce type d'agriculture-là. Et aujourd'hui, ils ont leurs propres activités qui sont plutôt en bonne santé. Et c'est tant mieux. Voilà. Et c'est un petit peu le but des Amanins. Et c'est ce qu'on veut faire reconnaître aujourd'hui. Voilà. L'idée, c'est quand même de se dire qu'on est un lieu formateur, donc d'intérêt général pour ça. Et l'association a reconnu son statut il n'y a pas très longtemps à ce niveau-là.
Cet enseignement d'une manière de travailler la terre ont donné lieu certainement aussi à des publications ou alors un certain continuum avec d'autres protagonistes ou des personnes qui sont passées par vous
Alors, on accueille très régulièrement des partenaires qui ont des techniques complémentaires aux nôtres et qui trouvent aux Amanins un lieu d'expérimentation très intéressant puisque ça fait 20 ans que le lieu a été transformé en lieu écologique. Et par ailleurs, on est assez dans l'expérimentation. Donc, on n'a pas de savoir en nous. Simplement, on essaye des choses et on valide ce qui fonctionne et on met de côté ce qui ne fonctionne pas. C'est une activité qui du coup n'est pas extrêmement productive, mais qui permet quand même de faire un chemin dans l'agroécologie, de trouver une voie qui est la plus cohérente avec nos valeurs.
La notion de production permet-elle aussi, c'est l'idée aussi de savoir si un producteur peut vivre de son activité tout en respectant la biodiversité. Vous avez tenté et expérimenté. Quels sont les résultats selon vous ?
Alors les résultats aujourd'hui, ils sont relativement concluants puisque le lieu des Amanins est autonome en alimentation à 80% environ. Donc tous les produits alimentaires qui sortent de l'exploitation, que ce soit des produits laitiers, le pain, les légumes, la viande en conséquence de l'élevage, etc., suffisent à nourrir notre accueil, notre équipe, nos enfants. Je pense que c'est assez concluant. Après, ça... C'est un modèle un petit peu différent d'un producteur qui est isolé dans son exploitation, puisque là, on a regroupé toutes les compétences, tous les métiers agricoles et aussi l'activité d'accueil dans un seul et même panier, on va dire. Et c'est cet ensemble-là qui permet de faire vivre tout le monde dignement.
C'est une notion de coopérative, en quelque sorte.
Exactement. Une SCOP, c'est une coopérative et les Amanins sont à la fois une association et une SCOP.
Vous avez parlé aussi de la spiritualité de Pierre Rabhi. Quelle a été son influence sur cette organisation ?
Alors Pierre Rabhi, il a toujours prôné ce qu'on appelle la sobriété heureuse, c'est-à-dire de faire des choses intéressantes avec peu de moyens. Alors peu de moyens mécaniques pour l'agriculture, peu de moyens financiers, peu de moyens humains pour arriver, on va dire, à vivre pleinement et heureusement de son activité agricole et de sa vie en ruralité.
Et cela a permis de développer donc cette structure des Amanins. On va s'arrêter juste avant l'époque du Covid. Une structure qui permettait de faire vivre combien de personnes ?
Alors il y a à peu près, avec quelques petites notions de saison, mais il y a à peu près 15 personnes qui travaillent en permanence sur la SCOP. Et puis 3 personnes au niveau de l'association qui coordonnent un petit peu tout le projet.
Vous-même êtes coordinateur général de ce lieu. En quoi consiste justement cette activité ?
Alors la coordination, ça permet de faire cohabiter les deux structures dans un seul et même lieu, c'est-à-dire de faire en sorte que la SCOP ait une activité de production et une activité rentable, parce que c'est ça qui permet aussi à d'autres d'avoir envie de le faire, et à la fois de le faire dans un respect des valeurs que l'association prône et qu'elle impose finalement au lieu. Donc l'idée, c'est de bien faire cohabiter les deux structures et de les rapprocher de plus en plus pour que le projet soit commun et soit global.
Et je reviens un peu sur cette année 2020, hein, mars 2020. Là, ça a été un peu le couperet pour beaucoup en France et dans le monde. Comment ça a été perçu, justement, sur ce lieu des Amanins ?
Alors oui, ça a été un très gros coup dur pour les Amanins, comme pour beaucoup de monde, puisqu'on est un lieu de tourisme vert, finalement. Et on a beaucoup souffert d'un manque d'accueil à partir de cette année-là. Ça n'a pas cessé de baisser, on va dire, les 3-4 ans qu'on suivit, puisque les deux années de Covid ont été très dures et on ne pouvait pas légalement accueillir des personnes en vacances. Puis s'en est suivi deux années de sécheresse très forte, et puis aujourd'hui des difficultés dans le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises, qui fait que l'accueil souffre beaucoup en fait, de cette conjoncture et ne nous permet pas d'avoir le volume d'activité nécessaire pour maintenir notre équipe en l'état.
Et donc, cela ramène une certaine réalité et d'adapter hein, ce mode de fonctionnement qui existait donc, au sein de cette structure et de s'adapter à ces nouvelles contraintes, qu'elles soient sociales ou économiques. Et pour vous, c'est une épreuve, mais c'est aussi une leçon dont vous allez tirer une nouvelle expérience.
Alors oui, c'est un gros challenge en effet. L'idée, c'est à la fois effectivement de s'adapter un petit peu à ce manque d'activité, de le faire revenir d'une autre façon, d'en faire un lieu d'intérêt un peu plus général qui supportera aussi d'autres expérimentations, l'accueil d'autres publics, pourquoi pas. Et puis, on travaille aussi à la fois sur l'activité, mais on travaille aussi sur notre lieu en lui-même, sur nos paysages, sur notre environnement, puisqu'on ne veut pas rester inactif vis-à-vis de tout ce qui se passe en termes de climat. Et voilà, essayer d'avoir des endroits qui soient agréables à vivre, même en cas de forte chaleur ou de fortes intempéries, éventuellement, comme ça peut être le cas à La Roche-sur-Grane, c'est aussi un moyen pour nous de redonner une image très positive des Amanins.
D'ailleurs, on peut peut-être rappeler aussi ce que sont les Amanins, hein, au niveau des terres, la superficie qui est travaillée, le bétail également, et puis cette notion d'accueil quels outils ?
Alors oui, alors les Amanins, c'est une ferme de 55 hectares en polyculture élevage, donc il y a à peu près une bonne moitié de cette surface qui sont des forêts, que nous essayons aussi d'entretenir et de faire évoluer au mieux. Le reste étant des pâtures pour notre bétail et du maraîchage et des grandes cultures. Donc on a un cheptel d'une trentaine de brebis à peu près, de vaches laitières, et puis quelques animaux d'apparat, un bouc, une ânesse, etc. Donc ça c'est pour la partie élevage, des poules et aussi. Donc ça permet tout un tas d'aliments sains pour nourrir notre accueil. Côté maraîchage, on a à peu près 1,5 hectare de maraîchage avec toutes sortes de légumes hein, qui sont compatibles avec la région. Et puis, on a quelques grandes cultures, effectivement, alors soit pour nourrir le bétail, soit pour produire du blé qui va ensuite devenir de la farine, puis du pain pour les Amanins.
Avec peut-être cette notion d'autarcie, mais qui a été mise à mal quand même avec justement ce Covid hein, et ce confinement. Et maintenant, donc, vous envisagez de voir comment le fonctionnement à venir des Amanins, qu'est-ce que, selon vous, est nécessaire de transformer ?
Alors, ce qu'il nous faut transformer aujourd'hui, c'est notre modèle économique. Le fait d'avoir l'ensemble de notre personnel regroupé dans une seule et même structure nous paraît assez difficile au vu de l'évolution réglementaire et de notre statut qui est agricole, mais qui ne nous permet pas non plus de bénéficier de tous les avantages d'un agriculteur indépendant, par exemple. Donc, on travaille avec nos agriculteurs pour faire un conglomérat de petites entreprises sur place. Côté accueil, on travaille à développer de plus en plus l'accueil d'entreprises, de groupes autour des projets de régénération, autour des projets agroécologiques, parce qu'on est un centre légitime pour les accueillir et pour leur montrer un peu la mise en expérience de tout ça. Et puis on continue aussi, parce que c'est dans nos valeurs fondamentales dans l'association des Amanins, d'accueillir des écoles pour transmettre au maximum à des enfants, à des publics en difficulté, à des jeunes et à toutes sortes de centres de formation qui se développent aujourd'hui partout en France.
Les Colibris sont en réseau aussi avec vous ?
Alors le Colibri est un réseau qui avait été initié par Pierre Rabhi également. Et effectivement, on collabore du mieux qu'on peut avec eux quand c'est possible de se donner un coup de main mutuellement, bien entendu, oui.
Comment vous est venue justement cette notion de transformer un peu ce mode de fonctionnement? Il y a eu certainement des dialogues avec les participants, les personnes présentes hein, dans cette organisation. Il a fallu peut-être se rendre à l'évidence d'une impossibilité à continuer ainsi avant ce confinement.
Oui, alors on s'en est surtout préoccupé à la sortie du confinement, puisque jusque-là, les choses étaient assez équilibrées, très justes, mais plutôt équilibrées. Les difficultés sont venues pendant et après le confinement. Ceci dit, on a toujours eu une gouvernance assez horizontale entre nous quand même. Hein. L'UNSCOP, c'est une assemblée de coopérateurs, donc on échange beaucoup depuis tout le temps. On a un comité de pilotage qui a fait intervenir aussi l'association, la SCI, propriétaire des lieux. Et quant à moi, je suis entrepreneur de métier, j'ai encore des activités et j'ai pu soulager, on va dire aider les Amanins jusqu'à aujourd'hui pour arriver à cette phase de transformation, pour ne pas que les choses soient trop précipitées vers le mal, on va dire.
Vous-même donc êtes entrepreneur agricole, est-ce que vous êtes issu aussi de cette philosophie dont émanent les Amanins?
Alors pardon, je ne suis pas entrepreneur agricole, je suis entrepreneur dans d'autres métiers, mais ce n'est pas grave. Simplement, moi, comme c'est mon père qui a créé le lieu, j'ai toujours grandi avec cette approche écologique de la nature et de l'alimentation. On faisait le jardin tout petit à la maison, on élevait des animaux, on va dire par plaisir et pas par métier. Et ça m'a toujours intéressé, passionné, ou en tout cas, j'ai toujours vu ça de façon très évidente, de pratiquer l'agriculture comme ça et de s'alimenter, on va dire, très localement, très directement.
D'ailleurs, votre expérience d'entrepreneur dans un autre domaine, c'est quand même un outil qui vous permet d'agir au sein de cette restructuration, on peut dire ?
Oui, alors c'est les scopeurs effectivement qui m'ont demandé de prendre la gérance de leur activité pour cette raison-là, puisque j'ai 25 ans à peu près d'expertise en tant que gestionnaire d'entreprise, et c'était aussi légitime parce que je connaissais bien le lieu. C'était la ferme des amis proches de mes parents et je l'ai connu depuis tout petit. Et voilà, j'essaie d'apporter autant que je peux une organisation et tout ce qu'il faut à côté, on va dire, de l'activité en la respectant.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5,
101.7
FM.
Cette restructuration dont vous avez la charge se fait en dialogue avec les personnes au sein de cette association Les Amanins. Est-ce qu'il y a des désirs qui émergent dans l'ensemble? Et est-ce qu'il y a des choses qui vont peut-être s'amenuiser?
Alors, on fait tout ça de concert. L'idée, c'est de trouver, on va dire, une bonne stratégie à court et moyen terme pour les Amanins. Vers quoi on veut les amener, en quoi on est intéressant, on reste intéressant, qu'est-ce qu'on veut devenir après, quelles sont nos compétences, quelles sont nos faiblesses aussi peut-être. On est assez cohérent entre nous. Ça a mis un petit peu de temps à émerger parce que c'est un projet qui avait plus trop d'objectifs, plus trop de stratégies depuis assez longtemps. Donc moi, j'ai fait ma part en tant que gestionnaire, on va dire, pour réorganiser un petit peu l'activité sur place. Et avec l'association, effectivement, on a beaucoup échangé, on a beaucoup construit. Cette association-là, elle était aussi limitée à très peu de personnes il y a encore 2-3 ans de ça. Elle s'est bien structurée. Il y a beaucoup de gens bénévoles qui aiment les Amanins, qui le soutiennent et qui le connaissent depuis longtemps, qui sont venus ou qui sont revenus pour aider à construire ce projet d'avenir.
Alors, qu'est-ce que vont permettre justement ces appels à financement participatif dont vous avez lancé la demande? Et d'ailleurs, sur quel support ça se passera?
Alors effectivement, on a ce projet d'avenir qui est de régénérer en quelque sorte l'écosystème des Amanins, d'en faire à terme un centre de formation professionnelle, on va dire, pour le mieux vivre en ruralité, hein, pour parler de façon générale. Et effectivement, pour accélérer ce mouvement, pour ramener des partenaires avec nous, des partenaires de la vallée du Diwa et du Crétois, on a besoin de 100 000 euros. C'est un budget qui va être à la fois utilisé pour rémunérer ses partenaires, pour nous accompagner dans le projet technique, on va dire, et à la fois une partie qui va être allouée à des infrastructures pour être résilient face au climat. Et la dernière partie, c'est pour créer un petit peu d'emploi au niveau de l'association qui va, on va dire, chapeauter un petit peu tout ce travail-là, tout ce mouvement-là.
D'ailleurs, cet appel à participation financière est aussi alimente cette association étant d'intérêt général avec un retour fiscal donc de ses dons.
Oui, c'est très important. Depuis juillet 2024, c'est très récent. On a fait une démarche de rescrit fiscal auprès de l'administration qui nous l'a accordé assez facilement et assez rapidement puisqu'on a une vocation quand même pédagogique et sociale et environnementale qui est forte depuis longtemps aux Amanins. Donc aujourd'hui, on peut effectivement, vos auditeurs, leur entourage, peuvent soutenir les Amanins par plusieurs moyens. On peut nous retrouver sur les réseaux sociaux et tout est indiqué là-dessus. Sur notre site internet www.lesamanins.com. Et il y a une page spéciale qui a été ouverte pour le financement participatif qui est www.soutenir.lesamanins.com. Et cette page-là, effectivement, permet de faire des dons de 25, 50, 100 euros et plus qui sont effectivement défiscalisables en crédit d'impôt à hauteur de 66% pour les particuliers, de 60% pour les entreprises. Donc tout le monde est invité à nous soutenir dans sa mesure en ces temps de générosité.
Quelles sont les pistes qui sont mises en avant pour cette transformation des Amanins ? Est-ce qu'il y a deux ou trois idées qui prévalent ?
Alors oui, il y a trois valeurs essentielles. C'est de cultiver les paysages, c'est-à-dire de vraiment faire du design sur les paysages pour retenir l'eau, irriguer les sols de la façon la plus naturelle possible, avec ce qui tombe du ciel et ne pas artificialiser trop les choses. La deuxième chose, c'est de cultiver notre accueil, puisque c'est quand même une de nos forces aujourd'hui. On accueille beaucoup de monde dans des conditions très sobres et très, très simples, mais c'est très apprécié. Voilà. Donc on veut continuer à faire ça et à le transmettre et pourquoi pas le développer. Et la troisième chose, c'est qu'on veut cultiver effectivement aussi la pédagogie, la coopération, le vivre ensemble. Et ça passe par les enfants, ça passe par l'éducation et ça passe aussi par la coopération entre nous-mêmes et avec les gens qui nous visitent.
Vous parliez donc de reconstruire ou de redessiner le paysage, notamment par rapport à l'eau. Vous aviez justement cité ces deux années de sécheresse, en 2023-2024, j'imagine. Qu'est-ce qui est possible, selon vous, de modifier ? Est-ce que c'est, comment s'opérerait justement cette nouvelle gestion du sol ?
Alors, on pourrait en parler toute une journée si vous voulez, parce que c'est très complet. Mais l'idée, simplement, c'est de freiner. Si vous voulez, on manque d'eau dans les nappes et dans les rivières. Et c'est très criant dans la vallée de la Grenette, que moi j'habite depuis toute ma vie, ou presque. La ferme des Amanins étant à peine quelques kilomètres de la ferme de mon enfance. Et on voit que les rivières sont vides, que les nappes sont vides. Nous, on cultive du potager, des grandes cultures, et ça devient difficile aussi. Et l'eau est un sujet essentiel. Par contre, il y a quelque chose de positif, c'est qu'il tombe à peu près toujours autant d'eau du ciel. Mais cette eau-là, elle est, au fur et à mesure des aménagements qui ont été faits, en dépit du bon sens, on va dire, dans ces 10 décennies, l'eau part très vite au fleuve et à la mer. Et donc, elle n'est plus utile pour nos paysages. Donc, l'idée, c'est de façonner un petit peu les paysages, de beaucoup planter aussi, de se servir des arbres, de la nature, pour retenir l'eau, pour drainer, pour l'infiltrer. Et puis en profiter pour créer de l'alimentation, parce qu'on peut planter des choses qui sont alimentaires, et aussi développer de la biodiversité fortement autour de ces points d'eau.
Et puis d'adapter aussi les cultures en fonction de ces terres.
Bien sûr, oui. Il faut anticiper sans avoir de... Il n'y a pas de certitude sur l'avenir climatique et ce qui va se passer exactement. Ce qui est certain, c'est que les choses évoluent et qu'on doit encore faire des expérimentations aujourd'hui, comme on l'a toujours fait aux Amanins. Planter de nouvelles variétés de plantes, d'arbres, les mêler entre eux aussi pour qu'elles se protègent les unes les autres. Développer d'autres formes d'élevage, essayer de travailler plus directement avec la nature, avec la forêt qui nourricière, avec les produits un petit peu sauvages. Et voilà, c'est toutes ces techniques-là qui vont être dispensées aux Amanins demain pour des groupes d'accueil et qui vont être aussi co-construites avec nos partenaires de la vallée.
Quels sont les soutiens en dehors du public qui vous côtoie ou qui vous assiste ou qui vous aide ? Quels sont les soutiens autres ?
Alors aujourd'hui, on a fait une démarche assez globale. Hein, donc là, on parle d'un financement participatif vers tout un chacun. Mais on a aussi une démarche vers les pouvoirs publics pour nous aider. Il y a des fonds aujourd'hui qui existent et qui portent un petit peu ce genre de projet. Donc c'est une partie de notre développement. Il y a des fonds privés également, puisque moi-même, j'ai, par mon entreprise familiale, apporté beaucoup de soutien aux amanins financiers. On est en contact encore avec d'autres entrepreneurs de la région qui sont sensibles à ces causes-là, puisqu'ils habitent le territoire aussi, ils habitent voire même le micro-territoire de la Grenette, pourquoi pas. Et puis on a effectivement tous ces partenaires-là, institutionnels, la communauté de communes, et puis un tas d'associations, on va dire, très locales, qui ont un petit peu les mêmes ambitions que nous, ou en tout cas qui portent les mêmes valeurs que nous, qui veulent nous accompagner dans ce projet.
Il y a donc depuis une vingtaine d'années l'école des Amanins, enfin cette ferme, cette structure qui a certainement créé d'autres activités ou d'autres formations ou partenaires peut-être. Est-ce que cette philosophie a permis de développer une prise de conscience assez étendue sur les territoires et justement en cas de difficulté, est-ce qu'il y a en quelque sorte une entraide?
Alors, je le crois, oui, puisqu'on a beaucoup de retours, en fait, de formateurs externes qui sont venus dispenser leur méthodologie chez nous. Et puis, les formations qu'on a nous-mêmes faites sur place, hein, que ce soit autour de l'agriculture, de la construction, de l'assainissement, voilà, de toutes ces méthodes-là, de la coopération, bien entendu. Donc, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience et on reçoit beaucoup, beaucoup de messages de soutien, au-delà des dons qui arrivent aussi. Et on se dit qu'on est sur la bonne voie, finalement, et peut-être plus que jamais. On va dire qu'il y a 20 ans, c'était un petit peu original, pour parler normalement. Aujourd'hui, ça paraît essentiel. Et ce projet-là et toute cette communication-là, je l'espère, fera venir encore plus de monde, d'horizons différents, de tous horizons d'ailleurs, parce que on s'adresse à des personnes et pas vraiment à des organisations, mais plutôt à des hommes et à des femmes. Et on espère que chacun prenne un petit bout des Amanins quand il passe chez nous et fasse son cheminement chez soi, pourquoi pas.
Il y a cet accueil dont vous avez la charge de nourrir avec votre production. Cet accueil correspond à quels besoins et quelles sont les destinations de ces personnes qui sont reçues chez vous et quel est ce public d'ailleurs qui vient chez vous?
Alors, c'est un accueil, comme je vous le disais, en autonomie alimentaire surtout, en sobriété. On accueille des gens qui ont envie de venir un petit peu, on va dire, se déconnecter à la campagne, se relier au vivant, faire des rencontres, coopérer dans des jeux, coopérer dans des ateliers, comprendre comment on peut construire écologiquement, comment on peut cultiver sa terre de façon productive et à la fois vertueuse. Voilà, donc c'est un accueil très varié. C'est principalement, on va dire, dans les premières années, c'est des personnes qui sont convaincues de nos valeurs. Et puis petit à petit, c'est un petit peu tout public qui vient parce qu'en se disant, tiens, c'est une façon différente d'envisager des vacances, d'envisager un séminaire d'entreprise, d'envisager un voyage d'école. Et qui viennent découvrir, alors des fois avec un petit peu d'appréhension, avec beaucoup de questionnements souvent, mais qui repartent toujours très heureux et très conquis de ce qu'on leur propose, puisqu'il y a beaucoup d'humanité avant et surtout beaucoup d'humanité dans cet accueil-là.
Un public qui revient même parfois?
Ah oui, un public qui est fidèle sur les vacances notamment, et puis de plus en plus aussi sur les entreprises, puisqu'on a un lieu quand même qui est très beau et qui permet d'être accueilli dans un confort tout relatif, mais intéressant, on va dire, pour toute forme d'activité. Ça peut être aussi des spectacles, ça peut être des activités paramédicales et autres.
D'ailleurs, les Amanins, c'est un lieu d'ouverture, donc accueil d'un public, ouverture aussi festive parfois.
C'est un lieu d'inclusion, effectivement. Encore une fois, on accueille tous les publics qui souhaitent venir à nous. Et bien entendu, le côté festif est un côté positif pour cet accueil, puisque c'est animé, on a de multiples propositions, on va dire, d'organisations événementielles qui viennent dispenser un petit peu des choses sur place, mais aussi des associations de la LPO ou d'autres organisations qui viennent trouver là un terrain favorable, on va dire, pour faire passer des messages.
Est-ce que prochainement, des ouvertures sont prévues à l'adresse du public ?
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille effectivement, alors en hiver, ce sont plutôt des publics professionnels, saisonnalité oblige. Les vacances scolaires sont consacrées plutôt à des séjournants en particulier type famille. On a un partenariat avec VACAF, par exemple, qui permet d'avoir des familles un petit peu de tous horizons et même des familles qui sont très modestes, monoparentales et autres, qui viennent d'un petit peu loin, des grandes cités. Et puis, on a une saison de printemps qui est plus orientée vers les classes d'école, puisque c'est leur période de sortie. Et on ouvre au public très, très régulièrement, des samedis, pour leur faire visiter les lieux. Alors, pas ouvert très librement, mais ouvert de façon guidée, parce que ce qui est important aussi, c'est d'expliquer ce qu'on fait et d'accompagner les gens dans leur démarche, dans leur visite. Et puis, petit à petit, on a envie aussi d'ouvrir à la boutique, parce qu'on a une petite boutique des excédents de production. Et on a des partenariats avec d'autres producteurs très locaux. Et puis aussi d'ouvrir le restaurant demain. Voilà, donc tout ça, c'est des projets aussi qui vont se greffer autour de l'avenir des Amanins.
Et puis le site autour de cette ferme est touristique, vaut son coup d'œil aussi.
Alors La Roche-sur-Grane, je peux pas en dire du mal, j'y ai grandi, donc c'est un très beau village. Il est coincé sur une colline entre la vallée de la Drôme et la vallée de Marsanne, de Montélimar. Donc c'est un très beau site avec une très belle vue, un peu venteux, mais avec une très belle vue. Le climat y est plutôt modéré la plupart du temps. Et puis il est très très préservé effectivement, et on a la chance d'avoir autour de nous quelques fermiers très vertueux aussi, des grands espaces. Et c'est pas très difficile d'accès quand on vient des plus grandes villes, puisqu'on est très près finalement de la vallée du Rhône.
Face à cette culture raisonnée ou raisonnable, il y a toujours la convention, l'agriculture conventionnée. Quel est ce regard pour vous sur l'évolution aussi en parallèle entre votre structure, même si elle a beaucoup souffert de ce confinement, et ce qu'on peut percevoir aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup d'agriculteurs en colère de leurs conditions de travail, de leurs conditions de revenus. Est-ce que pour vous, ça vous conforte aussi dans cette démarche ?
Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai une grande affection pour tous les agriculteurs en général, puisque ce sont eux qui nous nourrissent, et c'est qu'un tout petit pourcentage de la population qui nourrit toute la France. Donc il faut beaucoup les respecter, quelles que soient leurs pratiques. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer une voie un petit peu différente. Et heureusement, dans la vallée de la Drôme, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont pris cette voie-là. Et c'est tant mieux. On est quand même dans un territoire très, très en avance sur le sujet. Peut-être parce que notre géographie le permet. Peut-être parce qu'il y a une mentalité aussi générale qui s'est développée ici. Mais voilà, j'ai beaucoup d'affection, de compassion pour les agriculteurs qui souffrent aujourd'hui. Et je comprends que pour beaucoup, c'est difficile d'opérer une mutation... on va dire très vite, très rapidement, parce que ils sont pris dans un engrenage aussi mécanisé, de dettes, etc., et de grandes exploitations. Et malheureusement, le nerf de la guerre, c'est quand même le travail. Et quand on est tout seul sur des centaines d'hectares, il n'y a pas bien le choix. Donc voilà, donc l'idée, c'est de dire, ne jetons pas l'opprobre sur ces gens-là, simplement invitons-les à prendre conscience qu'il y a d'autres voies, et puis aidons-les aussi à aller vers cette voie-là, parce que si on ne le fait pas, c'est toute la population qui en souffrira, et pas que les agriculteurs.
Ce sont les élections des chambres d'agriculture aussi qui vont avoir lieu, ou qui ont lieu en ce moment. Quel est votre regard justement sur cette modification de ces sièges, hein? Je crois que la Confédération paysanne a une représentation depuis la dernière élection. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle évolution de cette prise de conscience des agriculteurs sur l'avenir de leur métier ?
Alors, je ne suis pas très politisé au fait de toutes ces élections, parce qu'on est un petit peu dans notre environnement à nous. Mais je pense effectivement qu'il y a une prise de conscience, qu'elle soit syndicale ou pas. En tout cas, ça semble très vrai dans la région. Les plus jeunes nous diront que ça ne va pas assez vite. Et nous, on soutient en tout cas la conversion de toutes ces agricultures-là. Mais je ne pense pas qu'on ait un pouvoir particulier politique, on va dire, là-dessus. Par contre, on peut montrer par l'activité, par des modèles différents, par de la solidarité, qu'il est possible de faire des agricultures très raisonnables et d'en vivre dignement.
Tony Valentin, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu sur RDIWA pour nous parler donc de cet appel à financement participatif pour soutenir cette transformation des Amanins. Et puis on peut trouver aussi un site internet pour les Amanins.
Oui, merci Yves. Donc vous retrouvez toutes les informations et le cheminement pour le financement participatif sur le site www.lesamanins.com et vous pouvez aussi nous visiter, venir en vacances, voilà, nous soutenir de toutes les manières que vous voulez. Merci à vos auditeurs et merci à vous.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.